Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Parlons patrimoine maintenant avec nul autre que la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Robitaille.
On commencerait quand même par une nouvelle récente. Vous avez perdu votre chef de cabinet, Sandy Boutin, qui était président d'une maison de disques tout en exerçant ses fonctions de chef de cabinet. Que pensez-vous de cette situation-là? On ne vous a pas entendu sur ce sujet.
Monsieur Boutin est un homme remarquable. L'intégrité, on ne peut plus parfaite. Et brièvement, je vous dirais seulement que avant d'accepter ses fonctions, il a demandé un avis à la commissaire à l'éthique qui lui a donné le feu vert pour être à la fois chef de cabinet et avoir son entreprise. Alors, M. Boutin a respecté ce qu'on lui a demandé de faire. Il respecte la loi et son code d'éthique. Alors, je perds peut-être un chef de cabinet, comme vous dites, mais j'ai gagné un ami et j'en suis très heureuse d'avoir gagné cet ami.
Pensez-vous que les membres de cabinet comme ça devraient être soumis aux mêmes règles que les élus pour des choses comme celle-là?
Écoutez, je ne vais pas partir sur des avis sur l'éthique ou le code d'éthique. Je croyais que l'entrevue allait porter sur le patrimoine.
Alors, oui, tout de suite après.
Si nous parlions de patrimoine, là, je vais vous parler de patrimoine, mais pour ce qui est d'une analyse du code d'éthique, alors moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un code qui est en place, il y a une commissaire à l'éthique qui est en place, et que monsieur a respecté ce qu'on lui a demandé, respecté la loi, respecté son code d'éthique. Alors, à partir de là, vous savez, c'est normal qu'il y ait des déplacements de personnel, et je m'arrêterai là.
Votre projet de loi 69 sur le patrimoine, parlons-en maintenant, il a été bien accueilli au début, mais tout d'un coup, il y a eu une série de lettres dans les journaux. Je pense à la lettre de Phyllis Lambert, de Serge Joyal notamment, mais aussi à un ancien du ministère, Pierre Laoude, qui est un historien photographe aérien qui fait des photos absolument magnifiques et qui s'occupe entre autres d'un manoir historique à l'île d'Orléans. Lui, je vais commencer par lui, il dit « Nouvelle loi sur le patrimoine, les mêmes erreurs que d'habitude » et il parle notamment du délestage, le mot est chargé, du rôle de protection du patrimoine vers les municipalités. Il dit que ça a commencé sous le Parti québécois dans les années 80. Les gens avaient sonné l'alarme à l'époque. Or, on a continué dans cette voie-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'encore une fois, en tout cas, c'est ce qu'il dit, lui, encore une fois, on veut donner plus de pouvoir aux municipalités qui ont toutes sortes d'autres contraintes et qui peuvent souvent se désintéresser de leur patrimoine?
Bon, vous allez me permettre de m'inscrire en faux à l'égard de ces critiques-là, parce que, vous savez, on a fait des commissions, on a fait une commission parlementaire et des consultations, et s'il y a eu des critiques, ben, ce que nous avons fait récemment, juste avant que nous soyons en circonscription, nous avons déposé des amendements, justement parce qu'on les a entendus, ces critiques-là. Et j'apprécierais que les critiques regardent maintenant où nous allons avec les amendements que nous avons déposés.
Okay.
Et c'est justement pour nous assurer que les MRC, les villes, les municipalités aient naturellement qu'ils aient des pouvoirs, mais qu'ils aient des devoirs. Le gros problème avec l'actuelle loi, et je m'inscris totalement en faux, là, on ne délaisse pas nos pouvoirs. La ministre de la Culture, le ministère de la Culture conserve ses pouvoirs. Nous donnons de nouveaux pouvoirs au MRC. Les villes ont déjà des pouvoirs. Mais le problème avec la loi des libéraux, c'est qu'il y avait des pouvoirs, mais pas de devoirs. Alors, la protection du patrimoine culturel, ce sera plus optionnel. Parce qu'avec la loi de Christine Saint-Pierre, c'était optionnel.
Ouais.
Et c'est là que le bas blessait, c'est que les municipalités, certaines villes, ne prenaient pas leurs responsabilités. Alors, avec les amendements que nous avons déposés, et je vous invite à les lire, c'est inédit ce qu'on fait, c'est totalement nouveau. On ouvre la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est cette loi là, qui gère les villes. Là. Et on dit ben, tous les manquements qu'il y avait dans la loi des libéraux, là, on va les combler, on va les corriger. Entre autres, et là, c'est là que les devoirs arrivent, parce que vous dites, on leur donne des pouvoirs et on délaisse. On va leur donner des devoirs. Entre autres, les villes devront se doter d'un règlement de démolition. Vous savez, c'est pas le cas actuellement. Alors, quand vous n'avez pas de règlement de démolition, et plus de 60% des villes n'en ont pas, ben, c'est très facile, ça devient très facile pour n'importe qui de se procurer un permis de démolition. Et c'est justement ça qu'on veut contrer. Avant qu'un permis de démolition ne soit accordé à qui que ce soit, il y aura un processus rigoureux qui sera mis en branle pour qu'on analyse la pertinence de démolir le bâtiment s'il s'agit d'un bâtiment patrimonial. Donc ça, c'est une grande nouveauté et ça nous a été demandé par les groupes que nous avons rencontrés. Autre nouveauté très importante, nous allons donner, ils ont le pouvoir, mais ils ont le devoir, l'obligation, les villes, de se doter maintenant d'un règlement pour s'assurer de l'entretien des bâtiments. Et ça, ça a été une récrimination que nous ont faite tant les oppositions que les groupes qui sont venus nous voir. Ils nous ont dit, il n'y a pas d'obligation d'entretien. Eh bien là, il y en aura. C'est extrêmement important parce que le manque d'entretien, vous le savez, c'est ce qui conduit souvent qu'autrement à la démolition par abandon.
Oui,
donc,
oui.
Donc là, il y aura ce règlement de démolition, ce règlement d'entretien qui sera obligatoire. Comprenez qu'on change les paradigmes. On va changer les façons de faire au sein même des villes.
Ça, c'est intéressant parce que c'est le truc principal de certains promoteurs vandales, moi je les appelle comme ça, d'acheter une bâtisse puis de la laisser dépérir puis de dire « Ah, là, elle est devenue dangereuse ». Donc ça, vous dites que ça sera plus possible?
Ben non, parce qu'on va obliger les villes à se doter d'un règlement d'entretien des bâtiments. Et naturellement, les bâtiments patrimoniaux, ce qui me concerne, là, parce que c'est le ministre responsable de la loi sur le patrimoine culturel. Et en plus de ça, et même, c'était à la demande de certaines villes, elles nous disaient, on n'a pas de pouvoir dissuasif parce que les amendes sont dérisoires. Ben, nous allons augmenter de façon substantielle les amendes pour quiconque refusera d'entretenir son bâtiment. Alors, voyez-vous que la loi Christine Saint-Pierre, là, qui avait, l'esprit de la loi était bien, on veut tous protéger le patrimoine, mais il n'y avait pas d'obligation dans cette loi-là. Il y avait des pouvoirs, mais pas de devoirs. Là, il y aura des devoirs, il y aura des obligations, il y aura des comptes à rendre. Et ça ne sera plus optionnel. Alors là, ce règlement-là, pour l'entretien des bâtiments, et ajouter à ça la possibilité d'émettre des amendes qui sont conséquentes, va forcer les délinquants, comme vous les appelez, à entretenir...
Non, je les ai appelés les vandales, Madame la ministre.
Les vandales, excusez-moi, les vandales. En fait, pour moi, c'est des synonymes un peu. Hein.
Mais dans le cas du presbytère là, de Saint-Michel de Bellechasse, moi, j'ai suivi cette affaire-là, puis là, les protecteurs, je veux dire, c'est une bâtisse absolument extraordinaire, construite en 1739, puis le maire, il avait l'air à s'en foutre complètement. Écoutez, il disait dans un article que c'était une préoccupation, ça, de vieux, là, et ils vont disparaître bientôt, donc c'était épouvantable. Et je l'ai appelé, c'est un confrère de classe, c'est un de mes confrères de classe, Éric Tessier.
J'ai lu votre article.
Le maire. Mais il m'a fait comprendre, même si j'aime, tu sais, j'ai pas aimé ses positions puis ses prises de position, je peux comprendre quand même que les municipalités sont prises avec des problèmes très concrets, genre les eaux usées dans son cas, les neiges usées, les routes à réparer. Est-ce qu'on a beau leur donner des devoirs s'ils n'ont pas de deniers supplémentaires qui viennent de l'État, il faut que ça vienne de quelque part, est-ce qu'on ne sera pas devant le même résultat au bout du compte?
D'abord, deux choses. Le président de Saint-Michel-de-Bellechasse, on a eu la demande, je pense, juste un peu avant Noël,
sous
études. Vous comprendrez que c'est pas la ministre de la Culture qui va décider parce qu'elle trouve ça beau de le classer.
Non, ça, je sais bien.
Nous avons les spécialistes. Nous avons les gens qui sont au Conseil du patrimoine et nous avons également la direction du patrimoine culturel. Mais à sa place même, je peux vous dire que il semble rencontrer tous les critères pour un éventuel classement. Alors, rassurez-vous à cet égard-là. Mais ce que les villes ignorent souvent, et puis ça, je pense que ce sont le ministère a un devoir là-dedans à faire, c'est que lorsque vous avez un bâtiment qui jouit d'une mesure de protection, ou classé, ou cité, le gouvernement du Québec là a de l'argent pour vous.
Et c'est ça.
Ça, souvent, ils l'ignorent.
Ça, c'est grâce à la loi des libéraux, comme vous l'appelez, le fonds pour... le fonds qui a été constitué justement de la taxe, l'ancienne taxe des Olympiques.
La taxe sur le tabac.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est une chose. Il y a un fonds du patrimoine d'à peu près entre 20 et 23 millions par année qui lui vient de la taxe sur le tabac. Mais vous comprendrez que 20 millions par année, c'est insuffisant. Alors, il faut en rajouter. Ça prend une ministre ou un ministre et un gouvernement pour qui c'est important. Et c'est ce qu'on a fait. On a rajouté 50 millions par-dessus le 20, là, juste pour vous dire. Là. Mais pour revenir, par exemple, aux municipalités, aux villes, vous dites ils ont des obligations.
Oui.
Je suis d'accord avec vous. Et on veut en faire des partenaires. Et on veut en faire des alliés. Parce que je considère qu'au premier chef, et c'est pour ça que je m'inscris en faux, tous ceux qui disent ça n'a pas de bon sens, on envoie les pouvoirs aux villes et on ne les aide pas.
Ouais.
5 minutes, là. On va les aider et on a commencé à les aider. Et moi, je crois au partenariat. Je crois, oui, il peut y avoir certains délinquants, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de maires, de mairesses, de municipalités qui sont intéressés à la protection du patrimoine et à leur bâtiment parce que les citoyens leur disent jusqu'à quel point c'est important et qu'on commence à voir l'importance de ces bâtiments-là puisque un bâtiment, il n'y en a qu'un. Là. On peut pas... après, il n'est plus là. Il y a une valeur à ce patrimoine-là. Entre autres, une valeur
mais,
à l'énergie.
Mais, Madame la ministre, je veux juste citer une statistique que Pierre Laoude cite dans son article. Il dit « Aujourd'hui, sur les 1200 municipalités québécoises, on peut compter sur les doigts d'une main celles qui ont embauché un spécialiste du patrimoine. » Est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt à ce palier-là de gouvernement? C'est pas un palier de gouvernement, mais à ce palier-là de gestion, là, on dirait qu'il s'en
On est en train de réparer les pots cassés parce que ce que la sympathique députée de l'Acadie nous a pas dit hier, c'est que durant le règne de M. Couillard, entre autres, là, on a coupé à peu près 120 agents en culture et patrimoine.
Hein? Ouais.
On a coupé. Alors, moi, j'ai appris ça en lisant un article du Devoir. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis près de 52 millions de dollars de plus là, que le Fonds du patrimoine. Là. Et elle m'a dit, avec cet argent-là, on va accompagner les villes, les MRC qui voudront 1% engager des agents patrimoniaux pour faire des inventaires, parce qu'il n'y a pas d'inventaire centralisé, il n'y a pas d'inventaire, c'est pas uniforme, et pour donner de l'argent pour faire de la restauration de bâtiments patrimoniaux qui ne jouent pas nécessairement des mesures de protection actuellement. Et vous savez, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'initialement, on avait mis 36 millions. Et la demande a été tellement grande au lieu de couper et de diviser les 36 millions, bien, on a dit non, on va en rajouter. J'ai augmenté les budgets jusqu'à 52 millions. Et ça, monsieur, c'est de l'appariement. Ce qui signifie que les villes, il y a eu 96 ententes conclues avec les villes et les MRC. Alors, si vous êtes une MRC, c'est plus qu'une municipalité. Donc, plus de 96 ententes ont été conclues. Et ces ententes-là vont permettre à l'entretien de bâtiments patrimoniaux à la grandeur du Québec. Et nous mettons 52 millions en tant que gouvernement du Québec, mais les villes qui ont embarqué les MRC en mettent autant. Ça veut dire qu'actuellement, au moment où on se parle, il y a 104 millions de dollars engagés à la grandeur du territoire du Québec pour faire la restauration de bâtiments patrimoniaux qui ne jouissent d'aucune mesure de protection. Alors ça, si c'est pas de l'engagement, d'un, ça n'a jamais été fait en passant, là, aucun gouvernement n'a mis des sommes aussi importantes pour entretenir les bâtiments. Que ne vous dira pas la députée de l'Acadie. Par ailleurs, nous continuons à travailler, nous savons qu'il faut accompagner et accompagner encore davantage, et tout ça se fait de façon graduelle. Mais moi, je veux me faire des villes, des municipalités, des alliés et non des antagonistes qui n'ont aucune sympathie pour le bâtiment, parce que moi, je vous dis qu'il y a aussi plusieurs villes exemplaires, mais là, on n'en parle pas en passant. Naturellement, c'est les mauvaises nouvelles qui font des nouvelles, mais il y a beaucoup de belles, de beaux exemples.
Ben oui.
De patrimoine. Et dans ce programme-là, nous avons mis sur pied, parce que ça s'est fait de concert avec le ministère des Affaires municipales, on travaille ensemble, là.
Mais tenez-nous informés des réussites, hein? Tenez-nous informés des réussites.
Pardon?
J'ai dit tenez-nous informés des réussites.
Ben écoutez, oui, mais enfin, vous savez, les bonnes nouvelles ne font pas les nouvelles. Si je vous dirais que j'ai soumis ces annonces-là à certains qui ne trouvaient pas important de dire que nous mettions 52 millions pour entretenir des bâtiments. Alors, je suis bien heureuse que vous me donniez l'opportunité d'en parler.
Et
c'est 104 millions de dollars
je veux juste,
qui ira dans la restauration de bâtiments.
Il y a un monument à Montréal extraordinaire sur la rue Saint-Denis qui s'appelle la Bibliothèque Saint-Sulpice. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là?
Oui.
Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a eu plusieurs projets abandonnés. À un moment donné, le gouvernement libéral voulait vendre ça sur Kijiji quasiment. Là. Je caricature, mais c'était pas. Ça a été ridicule.
Non, c'est pas une caricature, c'est vrai. C'était dans les petites annonces.
C'était épouvantable, je sais.
C'est à l'époque. poste.
Et même Madame Saint-Pierre avait l'air mal à l'aise hier quand je l'ai abordée. Là. Donc, mais je veux pas qu'on revienne sur la bataille politique, puis eux ont fait pire, tout ça. Mais vous, qu'allez-vous faire?
On va en prendre soin. D'un, je suis allée le visiter il y a quelques semaines avec ma collègue, la ministre des Affaires, la ministre de la Métropole, Mme Chantal Rouleau. Et puis, nous, ce qu'on veut faire, sachez qu'il y avait un projet qui a été mis en catastrophe sur la table par le précédent gouvernement. Et quand on est arrivé, imaginez-vous que ce projet-là était en dépassement de coût de 224. Alors, vous, si vous avez une maison que vous voulez restaurer, puis on vous arrive deux années après, puis on vous dit, ben finalement, ça va coûter 224 plus cher, je pense que vous mettez les freins. Mm-hmm. Nous, ce que nous allons faire, nous allons, un, le restaurer et lui redonner une vocation culturelle. Et pour que le plus grand nombre de citoyens puissent y avoir accès, je vous dis que je suis allée le visiter. Il y avait avec nous plusieurs personnes et j'ai été, je vais vous surprendre peut-être, mais agréablement surprise de constater il y a des choses extrêmement belles et positives qui pourraient être faites et que ce n'est pas un bâtiment qui est en état de décomposition avancée, contrairement à ce que certaines personnes pourraient laisser croire.
Okay.
Là, il y a du travail à faire, j'en conviens, mais je crois qu'on va pouvoir restaurer de belles façons ce bâtiment qui offre une multitude de possibilités.
Est-ce qu'il va y avoir des livres dans la bibliothèque? Est-ce que les livres vont revenir un peu dans la bibliothèque Saint-Sulpice? Dans l'avenir?
Il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude actuellement. Je vous dis que ce sera une vocation culturelle ouverte au plus grand nombre. Alors, la culture, c'est vaste, monsieur, comme vous le savez.
Oui.
Mais c'est vraiment un bâtiment que nous souhaitons réhabiliter. Mais c'est pas vrai que le gouvernement du Québec va investir à hauteur de 225 millions de plus que ce qui a été provisionné par le précédent gouvernement, qui était totalement dérisoire.
Okay.
On veut agir de façon responsable et redonner ce bâtiment-là aux citoyens.
Merci beaucoup, Nathalie Roy, pour cette conversation. Puis je vous laisse aller au Conseil des ministres.
Oui, c'est vrai, c'est dans quelques minutes. Alors, ben, écoutez, au plaisir.
Au revoir.
Je
ne
sais pas s'il y a d'autres informations que je peux vous communiquer.
Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.